consonance. De la page à la voix.
Porte-plume.
Lecture libre. Consonance. Le Grand Sceau. Un texte de Thibaut Dubreuil sur une lecture de Fanny Lerest, Rémi Clenet et Colline Ferreira d'Albino. Sixième et dernière partie. Paul est un adolescent qui a fait une tentative de suicide en se défenestrant. Malgré ses nombreuses blessures, il s'en est sorti. Une enquête de police a entraîné son placement par un juge dans une famille d'accueil où Paul a fait la connaissance de Mathilde, la fille de la maison, avec laquelle il se défie en permanence. Lors d'une visite à sa famille, un week-end, son père lui annonce qu'il l'a inscrit à un concours d'entrée à EDF et qu'il sera donc inutile d'aller jusqu'au bac. Le lundi suivant, l'assistante sociale apprend à ses parents que la famille d'accueil refuse de l'accueillir car il a une mauvaise influence sur leur fille.
Paul reprit donc sa place dans le trafic. Le retour dans son ancien lycée se fit dans un peu d'indifférence, comme quelqu'un qui reviendrait après une mauvaise grippe, une jambe cassée. Il était là, reprenant par moments des discussions qu'il avait laissées en l'air avec certains de ses camarades, notamment cette fille et ce garçon qui étaient venus le voir à l'hôpital. Mais ils étaient passés à autre chose. Paul avait cette faculté déconcertante de se souvenir de tout. Comme ce personnage, Étalidès de Thessalie, dans le roman La Nef Argo, qu'il avait entrepris de lire. Étalidès, à qui les autres confiaient leur mémoire de peur qu'elle ne se perde, et Paul, qui serait capable de ressortir dans 20 ans, dans 30 ans, à Barbara, Yann ou Farid, des trucs anodins balancés comme ça entre deux cours. Plus il retenait de choses, plus il lui semblait que sa mémoire s'apparentait à un disque dur dont la contenance devenait infinie. Il bossait sans cesse, même au café où les autres avaient fini par le laisser seul, hésitant entre l'ennui d'avoir encore une discussion d'intello et l'oubli quand il se mettait à sortir des livres qu'il annotait sur des cahiers d'écoliers. Parfois, un élève se risquait à son côté, lui demandant pourquoi il n'avait pas d'ordinateur, saisissant un livre qu'il ne gardait jamais bien longtemps, cédant rapidement à la bande qu'il réclamait à l'autre bout du café. On peut pas dire que Paul était vraiment un solitaire, car il était au courant de tout et pouvait se montrer sociable et intéressé, mais il soignait sa mise en scène de futur étudiant déjà autonome et investi, comme s'il voulait prendre de l'avance sur quelque chose qui le poursuivait. De Mathilde, plus rien. Plus aucune nouvelle. Son numéro de téléphone avait été invalidé, elle n'existait pas sur les réseaux. Paul regrettait à présent ses moments de brouille avec elle. Il aurait aimé en profiter plus. Pour une fois que quelqu'un lui tenait tête au point de le désarçonner. Mais Mathilde semblait s'être évaporée. Une après-midi, il sécha les cours et prit le bus jusqu'à l'autre bout de la ville, là où elle habitait. Là où le château avait définitivement relevé son pont-levis. Par la rue derrière, on pouvait voir la fenêtre de sa chambre, au travers des frondaisons encore éparses du printemps qui tardait. Les volets étaient fermés. Il se rendit à son lycée, patienta 2 heures en espérant qu'un élève de sa classe sortirait pour enfin le questionner, lui demander où elle était. Il reconnut une fille qui s'approcha de lui en le saluant de manière formelle. Il lui demanda « Mais, et Mathilde ?» Et il reçut comme seule réponse « Putain, t'en as fait des conneries. » Alors il s'abîma encore plus dans le travail, devint le leader maximo de sa classe. 18 partout, comme si bosser jusqu'à l'épuisement devait servir d'exutoire, de demande de pardon jamais accordée pour n'avoir pas assez dissuadé Mathilde de suivre son exemple. Parfois, il consultait les pages nécrologiques sur le net, redoutant d'y trouver son nom. Les moteurs de recherche les plus pointus semblaient l'avoir perdu dans la nuit. À part cette photo, un gala de danse, elle devait avoir 7 ans. Une photo en noir et blanc qui l'avait déconcerté tant il lisait tout l'avenir au fond des yeux de cette petite fille. Il ébaucha une lettre pour Geneviève et Henri qu'il jeta avant de l'avoir achevée. Il se déçut lui-même en envoyant la boulette dans la corbeille, se rappelant cette vieille chanson de Serge Gainsbourg, et il redouta soudain de devenir lui aussi un aquaboniste. Mais il ne voulait pas trahir Mathilde en dévoilant, même par omission, les plans secrets un peu éventés qu'elle avait échafaudés, et dont il se dit que si on l'avait envoyée ailleurs, dans un internat des montagnes suisses, en Angleterre, à Rome, qui sait, c'était bien parce qu'au fond, ses parents savaient qu'elle pouvait passer à l'acte. Non pas se jeter par la fenêtre de sa chambre, mais partir. Tout larguer. Commencer de zéro. À 18 ans. Cet acte parental traduisait une forme d'amour mal placée. Incomplet. Mais peut-être valait-il mieux cela que des fadaises d'adolescente qui reviendraient rapidement à la raison et qu'on finirait par faire rentrer dans sa place son trou, à coup de pied au cul si nécessaire. Il valait peut-être mieux un coup de pied que rien du tout. Paul pensait souvent à elle, au soir, quand il se rappelait leur discussion, surtout la dernière. Il était parti trop tôt pour en savoir plus. Il aurait aimé être une petite souris, la suivant cachée dans son sac pour découvrir si oui ou non elle oserait. Mais petite souris, il ne savait pas faire. Il n'était que gros éléphant et n'avait jamais envisagé qu'on puisse le renvoyer comme ça du château. Retour au port. Comme le migrant à la présence incongrue qu'on découvre au fond de la cale et qu'on débarque, de peur d'une contagion. Il se persuada au milieu des remords qu'il n'était pour rien dans tout cela. Il demanda même pardon à Mathilde dans cette lettre qu'il reprit et qu'il finit par envoyer quelques jours plus tard. Il refusait de s'excuser devant Geneviève et Henri, espérant qu'ils mettraient leur colère de côté et qu'ils convoqueraient leur intelligence pour lire entre les lignes. La lettre, un recto verso écrit avec des mots simples, s'adressant à Mathilde dans le texte et à ses parents dans le fond. Paul escomptait sans trop y croire qu'il comprendrait d'où il venait et par où il était passé. Que sa présence parmi eux pendant ces quelques semaines ne leur avait pas suffi pour appréhender cette réalité terriblement supérieure qu'ils devaient admettre parce qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose de plus. Ils n'attendaient pas de réponse, même s'il espérait secrètement que l'AS, qui était toujours en contact avec eux, lui donne quelques nouvelles. Lui, qui n'avait jamais mis le nez dans la boîte aux lettres du hall de l'immeuble, se mit à guetter l'arrivée du facteur, quand il revenait chez ses parents, le samedi. Début mai, il reçut une lettre à son nom. Il était reçu au concours d'EDF. Les jours qui suivirent ressemblèrent à un effondrement. Paul n'y était plus. Ni en classe, où à la surprise générale il reçut un 10 sur 20 en économie, ni au foyer où il passait son temps à fumer dehors avec des garçons qu'il ne connaissait pas, n'hésitant pas à faire le mur pour aller boire des bières. Un soir, il fut surpris avec d'autres et convoqué pour manquement à la discipline. « Depuis quelques jours, tu passes le plus clair de ton temps à ne rien faire. Pour quelqu'un qui a de l'ambition... » Paul répondit que le clair du temps était une expression qui ne convenait guère. Qu'il fallait plutôt parler d'un temps sombre, annonciateur des grands orages. Son père s'était félicité de sa réussite à ce concours. Enfin, il partirait de la maison, et loin en plus. Le centre de formation était à 300 km. Il ne pourrait même pas rentrer le week-end. Paul savait surtout que ce qui soulageait son père était que la formation était entièrement prise en charge par l'entreprise, même le logement. Dans 2 ou 3 ans, il serait opérationnel, balancé en Île-de-France comme les autres, et puis surtout, cela ne lui coûterait rien. Fini l'université, ces branleurs qui font grève et qui perdent leur temps à apprendre des trucs qui ne leur serviront jamais, même pas comme baratin à Pôle emploi. Paul ferait enfin quelque chose d'utile. Sa mère applaudit des deux mains, répétant à l'envi que son fils allait devenir directeur. Et, hein, t'es content, hein? Sa sœur, trop jeune pour saisir les enjeux, balançait entre l'enthousiasme parental et le regard sombre de son frère. Mais comment avait-il pu être si bête pour ne pas avoir vu ce piège si énorme juste sous ses pieds? Il était évident qu'il fallait le rater ce concours. Il y avait une note éliminatoire, il suffisait d'avoir un 3 en physique et c'était plié. mais il avait voulu accéder aux demandes du paternel. Lui plaire aussi, un peu, en faisant mine de s'intéresser aux impédances et aux potentiels, aux câbles qui se rétractent et aux gaz compressés. Compressé, il l'était à présent. Rétracté jusqu'au fond de son lit où il versait des larmes par milliers dans des tubes à essai ratés. Paul tenta de se reprendre, mais toute force l'avait quitté. Il ne fonctionnait plus qu'au talent. Il se voyait en rêve, s'avançant vers le tableau dans le hall du lycée, au milieu des autres, d'une foule heureuse et angoissée, trouvant aisément son nom parmi les reçus, comme ceux de 14 avaient trouvé le leur dans ces longues listes de mobilisation qui leur annonçaient que la patrie exigeait leur sacrifice. Lui qui espérait l'épreuve du bac comme une délivrance, enfin partir ailleurs, quitter cette famille qui ne l'avait jamais compris, pis encore, qui n'avait jamais rien fait dans ce sens, allant même jusqu'à le contrarier une fois adulte. Il venait de fêter ses 18 ans. Il la redoutait à présent. Il se couchait de plus en plus tard, profitant de chaque miette du jour et de la nuit avant que la grande nuit l'enferme définitivement dans les tranchées où l'on enterre des câbles d'alimentation électrique. Fini les pylônes perchés. Adieu l'université, la sociologie, son histoire, l'économie, des statistiques. Il entrerait dans des statistiques où il n'avait jamais pensé qu'on l'y trouverait un jour. Et ce n'est pas lui qui serait chargé de leur analyse. Tout ce qu'il avait accompli jusqu'à présent, tous ces sacrifices qu'il avait qualifiés de sacrifices de guerre, n'avaient débouché que sur une autre guerre, d'un type nouveau, pas encore nommé. Un défi qu'il ne sentait plus la force de relever. La nuit, il grommelait, empêchant les autres de dormir, jurant contre le ciel et tout ce genre de choses qu'il en avait assez des épreuves, qu'il aspirait au calme, à la vie, mais le ciel restait désespérément vide, ignorant ses appels et même sa présence. Peut-être faudrait-il alors combler ce vide par un geste de force, comme un chef-d'œuvre d'immédiateté, plus rapide à faire qu'une disserte de philo, mais avec un poids identique. Le sien flottant dans la nuit tiède de l'été qui viendrait, sous les airs impatients de la pendule de l'usine d'en face. Cette pendule de marque jazz qui n'attendait que son signal pour mettre ses aiguilles en mouvement une dernière fois, une bonne fois pour toutes. Paul comptait les jours. Il escomptait même, comme un comptable ou un taulard qui biffe les jours, qui le sépare non pas de sa remise en liberté, mais de sa mise sous condition. Comme si la vie s'était inversée. Comme si depuis l'ouverture de cette enveloppe à son nom, ces dernières semaines prenaient des airs de pente folle, au revêtement si glissant que même y planter ses ongles ne servirait à rien. Au fond, une boîte. Pas vraiment une tôle. Et au fond de cette boîte, un couloir, tout tracé avec de la lumière rassurante. Personne ne se fait virer d'EDF. Tout droit jusqu'à ta retraite. Tout droit jusqu'à la dernière boîte, les quatre planches. À peine le temps de te retourner pour faire le constat amer que tu t'es trompé de couloir, et c'est déjà la fin. Ses copains du foyer le félicitaient. La bonne planque, la bonne paye, sans compter les avantages. Eux souvent galéraient pour un simple CAP de tourneur-fraiseur, de mécano. Ils ne comprenaient pas sa désillusion, regrettant par moments d'avoir rien fait d'autre que du bordel quand ils étaient à l'école. Une fois, l'un d'eux le traita même de petit bourge, lui qui venait d'une zone de région parisienne. Au lycée, les remarques n'étaient pas vraiment différentes, oscillant entre indifférence et incompréhension. C'était bien la peine d'avoir fait un cursus général pour finir en formation niveau 3e. On lui demanda même s'il avait le sentiment de s'être trompé. Paul ne savait pas comment interpréter cette formule. Où s'était-il trompé ? Pourquoi avait-il toujours cette sensation que pour d'autres, les évidences conduisaient leur vie ? L'une avait déjà sa place en cité universitaire. Il paraît que Poitiers, c'est cool quand même. L'autre logerait chez ses grands-parents. T'imagines, à 10 minutes de métro de mon école. Un troisième partirait en colocation, il avait déjà des noms. Et déjà, on préparait des fêtes, on repérait les rues de la soif. Paul, lui, sentait sa gorge sèche. Se posant à présent la question du bien fondé de passer un bac dont tout le monde se fichait bien. Même lui. Tant d'efforts pour finir à Douaumont. Autant bondir par-dessus le parapet et en finir rapidement. Mais en face, qu'allait-il trouver ? Les grandes hécatombes avaient rejoint les livres d'histoire dont leur consultation assidue ne lui apprenait pas grand-chose. Partout, c'était la paix, dans ce coin-là du monde en tout cas. On manquait d'ennemis pour des guerres de type classique. Les nouvelles guerres étaient celles qui l'intéressaient vraiment. Elles se passaient en bourse, se cachaient au sein des entreprises ou parmi les manifestants des ronds-points. L'ennemi était devenu insaisissable. Il portait le même uniforme, se dissimulant dans cette novlangue qui le faisait sourire. Les derniers jours qui précédaient l'examen avaient servi à cela, à faire un état des lieux, un examen de conscience. La guerre était finie. Les combats actuels étaient en voie d'être perdus et ils compteraient parmi les anonymes tombés au champ d'honneur. Une simple recherche sur Internet lui indiqua qu'il n'était nulle part. Il avait fermé tous ses réseaux. Il se félicitait de devenir le soldat inconnu. « La gueule !» avait dit le prof de théâtre. « Il faut que ça ait de la gueule !» Paul n'avait fait qu'une initiation au théâtre. Il déplorait ses représentations où on finit toujours par confondre réalité et fiction. Sa réalité terriblement supérieure ne pouvait s'accommoder de faux-semblants. Mais là, il fit exception. Puisque la réalité ne voulait pas de lui, il passerait par le trou. Celui qui se trouve sous l'Arc de Triomphe. Et il s'en irait reposer du côté des cendres. Sûr que c'était pas là où on irait le chercher. La première épreuve du bac arriva avec l'annonce de l'été. Peut-on être insensible à l'art ? Toute vérité est-elle définitive ? Paul ne mit pas longtemps à se décider. Il choisit le sujet sur l'art en souvenir de Mathilde. Ce n'est vraiment que la veille qu'il prit la décision de passer cet examen qui lui serait au final inutile. Il voulait sa médaille, sa croix de guerre économique, la preuve tangible qu'il avait bien existé sur cette terre. Rechercher une mention serait comme avoir les palmes accrochées à son poitrail. Joli, mais plus vraiment indispensable. Bientôt suivirent les autres épreuves qui lui apparurent plus simples que ce qu'il avait fait dans l'année, même l'exercice d'allemand sur lequel il butait toujours un peu. Et puis la fin dans une précipitation qu'il n'arriva pas à maîtriser, les fêtes, les projets. On garde le contact, tu viendras me voir ? C'est pas si loin par le train. Paul joua son rôle, se dit qu'au fond, le théâtre des apparences pouvait servir de couverture polaire alors que le froid de l'été commençait à le recouvrir. Même les saisons s'inversaient. Décidément, plus rien ne tournait vraiment rond sur cette planète. Réponse finale le 4 juillet, jour de l'indépendance. Un mot qui rime avec délivrance, vengeance, et puis quoi d'autre ? Se demandait Paul assis à son bureau. Le dossier complet pour le DF était reparti avec sa signature. Début des cours le 3 septembre. Prière de venir la veille pour l'installation. Faudra bosser pendant les vacances. Il te faut de l'argent de poche. Puis la porte avait claqué dans le signal d'un message sur son téléphone portable. Paul ne recevait plus de messages depuis longtemps. Il avait placé tous les numéros en indésirables. Et c'est un peu curieux qu'il ouvrit son téléphone.
« Je t'attends en bas. »
Numéro masqué. Le théâtre. Au fond, il aurait peut-être dû poursuivre. Mais il ne bougea pas, croyant à une erreur. Puis, à nouveau, le même message, suivi de
« Je sais que t'es là, ta lumière est allumée. »
Il fit un tour dans la chambre de sa sœur, pensant à une mauvaise blague, mais celle-ci était sous la douche, et discrètement, il se glissa sur le balcon. En bas, dans le square encore clair de ces nuits d'été où le soleil se couche tard, une silhouette. Mathilde.
Comment t'as fait pour me trouver ?
C'est toi qui m'as trouvé.
J'ai fermé tous mes réseaux, et mes parents ne sont même pas dans l'annuaire.
D'un doigt, Mathilde désigna la pendule de marque jazz.
Je vais à la Villa Médicis.
Sans blague, t'as fini par céder.
Non mais je t'invite. Je suis riche. Tu me l'as dit.
C'est pas dans mes plans.
Je vais parler de la pizzeria. Autre indice pour te trouver.
Tu veux que je descende? Parce que mon plan, c'était ça.
Je t'en voudrais à mort si tu salissais mes loup-boutins avec tes tripes.
Une pizza ne suffira pas à me retenir.
Tu peux peut-être décaler? Au point où nous en sommes et puisque tout est à l'envers. Un jour de plus, un jour de moins.
Tu espères remonter le temps comme on prendra un train?
Oui. Ou alors ça ne fera que retarder l'échéance.
Mathilde fouilla alors dans son sac et en sortit le silencieux. Cette petite tête en matériaux aussi composite que la vie de Paul et qui tient ses deux mains fermées sur sa bouche, les yeux exorbités. Du sixième, Paul ne voyait pas très bien de quoi il s'agissait. Il se servit du portable comme d'un zoom et distingua d'abord les mains de Mathilde et puis, plus petit, ce personnage que personne n'avait pensé à prendre lorsque l'AS était venu précipitamment faire sa valise. Il avait été oublié sur l'oreiller. Paul n'avait pas osé demander qu'on le lui rende. Le silencieux aurait fait partie de son deuil. Mais il sourit en le voyant. Puis fut surpris de constater qu'il était en deux morceaux.
Je l'ai brisé en le projetant sur le mur de ta chambre. Il s'est cassé net, sur l'arête du nez.
Pourquoi t'as fait ça?
T'es difficile à convaincre.
Je ne crois que ce qui se démontre.
Le silencieux est silencieux, c'est sa nature. Il est pire que Dieu.
Quoi? Tu me trouves un côté mystique?
Une face, plutôt. Une face mystique. Et puis j'ai faim.
Et après la Villa Médicis, tu feras quoi?
Ah, ça, pour le savoir, il faut que tu descendes. Mais comme tu le sais, le savoir, ça prend du temps. Toi, tu passeras par l'escalier.
J'ai pas la philosophie de l'escalier. Réponds.
Je te propose qu'on se saoule au Chianti avant d'aller se jeter.
Paul attendit la fin du message, mais celle-ci ne vint pas. Il vit alors Mathilde s'asseoir sur le banc en béton du square.
Quoi? Se jeter où? Dans le fleuve? Sous un train? Non merci, c'est le ventre plein qu'on manque de courage.
Je n'y avais pas pensé, mais ça me tente pas. Regarde les aiguilles de la pendule. Le temps imparti te rapproche.
Si je comprends bien, c'est à moi d'écrire la fin.
Tu en as déjà écrit une que le grand éditeur a rejetée. Reprends ta copie, on n'est pas au bac ici.
Et toi, dans cette affaire, t'es qui? La grande messagère?
T'es difficile à convaincre.
Tu te répètes et tu réponds pas. Qu'est-ce que tu fais là?
Moi? Mais j'ai découvert le goût des épices qu'on jette sur les pizzas. Je cultive de la coriandre et des olives.
Je les connais déjà, ces goûts-là.
Oui, mais tu ne connais que ça.
Et l'avenir? Tu as pensé à l'avenir? À ton avenir?
À l'avenir, plein de fois. C'est fade, ça manque de piquant. À mon avenir, surtout pas. C'est pour ça que je suis ici.
Et qu'est-ce que je viens faire dans ton histoire, moi, hein? Tu n'as pas besoin de moi?
Quelque chose, et peut-être.
Non mais tu nous vois partir à la Villa Médicis, en sandales comme des Romains. Et puis après?
Tu as déjà écrit ton après. Je te propose un maintenant.
Sur ce dernier message, Mathilde se leva du banc et épousta son jean. Puis elle rangea son portable, mit son sac à l'épaule, prit le sentier goudronné et disparut derrière l'immeuble. Lorsque Paul descendit sur la rue, elle attendait au volant d'une vieille voiture, tout un fatras d'objets entassés sur la banquette arrière. Toile de tente, sac de sport, couchette roulée, un siège de camping, des provisions, un parasol.
C'est le bazar dans ta voiture? Où veux-tu que je m'assoie?
Ici. Il ne reste que la place du mort. Sais-tu que le silencieux a son double sculpté sur le clocher de la basilique? J'ai découvert ça l'autre jour.
Comment ça, un double?
Une autre sculpture, juste à côté. Un personnage à la bouche grande ouverte. On le surnomme le bavard.
Je l'ignorais.
Mathilde démarra la voiture. Celle-ci toussa un peu puis s'engagea sur la rue. Quand elle arriva au feu, un peu plus loin, Mathilde se tourna vers Paul. Elle gardait un visage impassible. Puis un sourire vint à ses lèvres quand elle annonça qu'elle aurait sûrement des choses à dire.